Recevez les salutations de la République des Philippines où nous travaillons à établir l'Église dans le seul pays chrétien d'Asie. La croissance rapide a fait que nous avons plus de 200 000 membres de première génération de l'Église et de nombreux dirigeants nouveaux et inexpérimentés. Dans ces conditions, nous devons nous concentrer sur les principes fondamentaux de la doctrine et du gouvernement de l'Église. Pour mon exposé sur les principes fondamentaux, je me suis entouré de 5 dirigeants philippins à qui j'ai demandé d'être mon auditoire immédiat. Chacun d'eux en représente des milliers d'autres qui ont des responsabilités similaires dans cette grande assemblée de dirigeants de la prêtrise et d'auxiliaires. J'ai donc invité un président de pieu, Raul Eduardo Vicenzio, de notre pieu de Makati, un évêque, Michael Ramirez, du pieu de Quinta, une présidente de société de secours, Filipina Fernandez, du pieu de Pasay, une présidente de jeune fille, Lisa Anciso, du pieu de Quezon City Sud, et une présidente de primaire, Grace T, du pieu de Antipolo. Merci à tous de votre présence ici et de l'excellent service que vous rendez. Notre sujet est la prêtrise et les auxiliaires. Mais nous ne pouvons aborder aucun de ces sujets sans parler de la famille. Nous ferons de fréquentes références à la famille, qui est à la fois le fondement et le bénéficiaire voulu du travail de la prêtrise et des auxiliaires. Commençons par affirmer 3 principes fondamentaux doctrinaux. Tout d'abord, l'Église et la famille éternelle sont toutes deux présidées par l'autorité de la prêtrise. Le gouvernement et les modalités de fonctionnement de l'Église et de la famille sont différents. Mais le fondement de l'autorité, la prêtrise, est le même. Deuxièmement, l'organisation de l'Église et l'organisation de la famille se soutiennent mutuellement. Chacune est indépendante dans sa propre sphère, mais chacune a la même mission, c'est-à-dire de contribuer à l'accomplissement du dessein de Dieu de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de ses enfants. Troisièmement, la famille de saints des derniers jours et l'Église elle-même puisent leur nourriture et leur direction du Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur a enseigné, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voici une branche que j'ai ramassée en venant à cette réunion. Que va-t-il arriver à cette branche maintenant qu'elle a été séparée du cep de vigne? Il est évident qu'elle va mourir. Elle ne peut sûrement pas porter de fruits. Comme Jésus l'a enseigné, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Pour que l'Église de Jésus-Christ et la famille portent du fruit, elles doivent demeurer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est vrai pour chacun de ses membres. Cela signifie que nous devons tous garder ses commandements, suivre ses enseignements et les serviteurs qu'il s'est donnés. La première présidence nous a dit, « Le foyer et la famille sont le fondement d'une vie juste. » Les auxiliaires de l'Église sont organisés pour aider les personnes, la famille et la prêtrise à réaliser les attentes divines. Réfléchissons à l'origine et à la mission de chacune de ces 3 auxiliaires. La société de secours a été organisée à Nauvoo en 1842 par Joseph Smith, le prophète. Quelques femmes à l'âme de dirigeantes proposèrent une constitution écrite. Mais le prophète dit qu'il leur donnerait quelque chose de mieux, qu'il les réunirait sous l'autorité de la prêtrise et selon le même modèle. Cette organisation aurait des objectifs spirituels qui ne seraient pas seulement de soulager les pauvres, mais de sauver des âmes. Le prophète a déclaré, « L'organisation de l'Église n'était pas parfaite tant que les femmes n'étaient pas organisées. » L'organisation de la société de secours a donné aux femmes un rôle officiel dans l'Église. Il les a préparées aux grandes responsabilités à venir, entre autres le service dans le temple et l'enseignement de l'Évangile. Ce que nous appelons aujourd'hui les jeunes filles a été organisé par le président Young environ 30 ans plus tard, afin de donner aux jeunes filles plus de chances d'apprendre l'Évangile, d'acquérir plus de force pour garder les commandements et repousser les voies destructrices du monde. Cette nouvelle organisation a bientôt été connue sous un nom qui définit son objectif, la Société d'amélioration mutuelle des jeunes filles. Environ 10 ans plus tard, sous la présidence de John Taylor, la nécessité d'enseigner l'Évangile aux enfants a été reconnue quand a été organisée ce qui s'est appelé la Société de la primaire. À peu près à la même époque, les besoins des jeunes gens d'apprendre l'Évangile, de servir et de se préparer à la prêtrise de Melchizedek a conduit à commencer à les ordonner et à les organiser en collège de la prêtrise d'Aaron. Les Écritures nous demandent de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La révélation moderne décrit ces armes qui comprennent la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et le casque du salut. Les enfants et les jeunes gens doivent être revêtus de cette armure. Le devoir sacré de revêtir les enfants et les jeunes gens des armes de Dieu est donné aux pères, aux mères et aux autres membres de la famille aidés de la prêtrise et des organisations auxiliaires de l'Église lorsqu'ils remplissent leurs devoirs importants. La société de secours, les jeunes filles, la primaire et les collèges de la prêtrise d'Aaron œuvrent sous la direction de l'autorité de la prêtrise. Il y a de nombreuses années, la première présidence a déclaré « Nous souhaitons qu'il soit bien compris que toutes les organisations auxiliaires œuvrent sous la présidence et la supervision directe des autorités de pieux et de paroisse qui ont la responsabilité suprême du travail de ces organisations. » Cela signifie que tous ceux qui servent dans ces auxiliaires doivent avoir reçu par l'imposition des mains l'autorité de diriger et d'enseigner dans le royaume de Dieu. Cela veut dire aussi que les autorités de la prêtrise qui président ces organisations auxiliaires doivent diriger et superviser leur travail. Les présidents de pieux, les évêques et les présidents de branche ne doivent pas se décharger de leur travail sur les dirigeants et les instructeurs des auxiliaires en les laissant agir à leur guise. L'œuvre des auxiliaires, tout comme l'œuvre des collèges et des autres organisations de l'Église, est de fortifier la famille et le foyer. Comme Frère Scott nous l'a rappelé précédemment, les collèges de la prêtrise de Melchizedek et la société de secours le font principalement en instruisant les parents, les exhortant à remplir tous leurs devoirs de famille, a dit le Seigneur dans une révélation. Les jeunes filles à la primaire fortifient la famille et le foyer principalement en instruisant les jeunes et les enfants et en les dirigeant dans des activités appropriées. Tout comme aux parents, le Seigneur commande aux dirigeants de l'Église d'enseigner conformément aux Écritures qui contiennent la plénitude de l'Évangile. Cette mission divine ne peut être accomplie que si les dirigeants et les instructeurs des auxiliaires demandent et suivent les conseils de la prêtrise et si les dirigeants de la prêtrise dirigent, comprennent et soutiennent les principes des auxiliaires. Parlons maintenant de l'application pratique de ces principes à une Église mondiale aux situations multiples. Dans le manuel d'instruction de l'Église, il est demandé aux présidents de pieux et aux évêques de se réunir souvent avec les présidents de sociétés de secours. Leurs conseillers doivent se réunir régulièrement avec les présidentes des jeunes filles et de la primaire. Mes frères, se réunir régulièrement, on veut dire plus d'une fois par an. De même, il est demandé à l'épiscopat de se réunir au moins une fois par mois avec ses présidentes d'auxiliaires lors du conseil de paroisse. Là, l'épiscopat les instruit sur la doctrine et les devoirs. C'est là que les dirigeants des auxiliaires discutent de la façon d'améliorer l'instruction de l'Évangile, des activités de la paroisse et de la manière de fortifier spirituellement les membres et les familles. Si les dirigeants de la prêtrise ne se réunissent pas avec les dirigeants d'auxiliaires ou si les dirigeants de la prêtrise ne dirigent pas et ne supervisent pas d'une manière correcte les programmes des auxiliaires, les enseignements et les activités qu'elles assurent peuvent ne pas être conformes à ce que le Seigneur a commandé. Les mêmes dérives peuvent se produire si les dirigeants des auxiliaires ne suivent pas avec foi les directives de leurs dirigeants de prêtrise. Que ce soit aux Philippines ou ailleurs dans le monde, j'ai vu des écarts comme celui-ci, par exemple. J'ai entendu des dirigeants d'auxiliaires se plaindre que leur évêque ou leur président de branche ne se réunit jamais avec eux. Cette attitude est un manquement aux conseils fondamentaux de se réunir régulièrement que je viens juste de citer. Il est impératif que les dirigeants de la prêtrise se tiennent régulièrement ces réunions avec les dirigeants des auxiliaires, comme nous venons de le voir dans la séquence vidéo dont la présidence générale a discuté. Les présidents des auxiliaires doivent aussi assister au conseil de paroisse tenu au moins une fois par mois. J'ai aussi entendu des dirigeants d'auxiliaires se plaindre que les dirigeants de la prêtrise n'appellent ni ne mettent à part les dirigeants et les instructeurs des auxiliaires. Ils ne s'intéressent pas à nous, c'est l'impression qui ressort. Il est impératif que les dirigeants de la prêtrise soient diligents à appeler les dirigeants d'auxiliaires nécessaires, comme nous venons de le voir dans la séquence vidéo dont les sœurs ont discuté. J'ai vu des enfants de la primaire que l'on avait rassemblés dans une seule pièce pour leur donner des friandises et les amuser le dimanche matin. Ce n'est pas cela, la primaire. La primaire, c'est enseigner l'Évangile aux enfants par la musique et des messages spirituels, accompagnés de la stimulation spirituelle et empreinte d'amour de la période d'échange. Il se peut que l'on offre aux jeunes filles et aux jeunes gens de la prêtrise d'Aaron qu'une leçon hebdomadaire ennuyeuse ou une activité non préparée en milieu de semaine, comme jouer au basket, déambuler dans un centre commercial ou bavarder à l'église. Cette sorte d'activité d'échange n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'enseignements inspirés et d'activités planifiées avec un objectif. J'ai entendu des instructrices de la société de secours ou des instructeurs de la prêtrise qui parlaient de leurs passe-temps ou de leurs préoccupations au lieu des sujets désignés par un programme inspiré pour ces classes. Sans la direction ferme et inspirée de la prêtrise, toute organisation ou activité de l'Église peut être monopolisée pour satisfaire les besoins, l'orgueil ou encore la vaine ambition des dirigeants ou des instructeurs. C'est contre cela que l'apôtre Paul mettait en garde quand il disait aux saints de Rome d'éviter que ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement qu'ils ont reçu. Il avertit que même si ces personnes usent de paroles douces et flatteuses, elles séduisent les cœurs des saints et ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. L'organisation et l'œuvre de nos auxiliaires de l'Église sont définies dans le manuel d'instruction de l'Église. Voyons comment ces directives doivent être appliquées. L'organisation complète et les programmes complets des auxiliaires, tels qu'ils sont définis dans le manuel, représentent l'idéal. Toutefois, dans une Église à l'échelle mondiale, à laquelle certaines branches et paroisses des Philippines appartiennent, il existe des situations où seule une partie peut être mise en œuvre. Nous devons nous souvenir que les situations et les ressources varient profondément selon les régions du monde. Par exemple, dans certaines régions, les membres disposent de beaucoup de temps et de moyens de transport pour les activités de l'Église. Ces régions riches en moyens ne sont cependant pas exemptes d'opposition parce que d'autres activités hors de l'Église lui font concurrence pour attirer l'attention de nos membres. Dans d'autres endroits, les membres travaillent de longues heures, 6 jours par semaine, ou ont à peine les moyens de se payer le transport pour se rendre aux réunions de l'Église. Dans ces régions, il y a peut-être peu d'activités qui fassent concurrence à l'Église. Mais le manque de moyens rend les activités et les réunions en semaine difficiles, voire impossibles. Nos auxiliaires de l'Église ont une plus grande souplesse d'organisation et de programme que les organisations de la prêtrise. Par exemple, les Écritures ne nous permettent pas de nous écarter ni des ordonnances, comme la Sainte Cène ou le Temple, ni de l'organisation de la prêtrise, comme les collèges, les branches, les paroisses et les pieux. De même, elle ne nous laisse aucune latitude concernant la nécessité du mariage de l'homme et de la femme pour gouverner la famille. Ces ordonnances et organisations de la prêtrise doivent être uniformes partout dans le monde. Par contre, les auxiliaires qui soutiennent ces organisations de la prêtrise sont plus souples dans leur organisation et dans les activités qu'elles mettent en œuvre pour leur soutien. Leur souplesse, bien sûr, ne peut s'exercer que sous la direction de leurs dirigeants de la prêtrise. Frère L. Tom Perry nous en a donné un bon exemple voici un an lors de la première réunion mondiale de formation des dirigeants. Ses conseils à propos de la souplesse des organisations et des activités s'appliquent tout particulièrement aux auxiliaires. Vous vous souvenez qu'il nous a enseigné que les dirigeants de la prêtrise devraient faire un inventaire des besoins des membres et du nombre de dirigeants disponibles dans une unité, que ce soit une paroisse ou une branche. Puis il a dit, la clé, c'est d'établir un programme en fonction du nombre de dirigeants disponibles et des besoins des membres. N'avancez pas plus vite que la taille et la maturité de votre unité le permettent. Fermez les guillemets. Cet enseignement nous a été très profitable ici aux Philippines. Je suis certain que s'il est compris et mis en application, il sera d'un grand profit dans de nombreux autres endroits où des petites branches ou paroisses ont des difficultés. Le président Hinckley nous a donné les principes de base pour nous guider à travers les nombreuses situations différentes que nous rencontrons. Faites de votre mieux. C'est tout ce que nous vous demandons, a-t-il dit. Faites de votre mieux. Le Seigneur n'attend pas que vous en fassiez plus. Faites simplement de votre mieux. Mes frères et sœurs, la prêtrise de Dieu est le fondement de l'autorité dans l'Église et dans la famille. Cette autorité gouverne et sert à la fois l'homme et la femme. Les Écritures enseignent que l'homme n'est point sans la femme et que la femme n'est point sans l'homme dans le Seigneur. Il en est de même dans l'Église et dans la famille. Nous devons aller de l'avant, main dans la main, œuvrant ensemble dans la grande mission de notre Père céleste, qui est de réaliser la vie éternelle de l'homme. Je témoigne de la vérité de ces choses et de la divinité de notre Sauveur Jésus-Christ, dont le sacrifice expiatoire et l'autorité rendent tout cela possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen.